Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la célèbre brochure situationniste de la misère en milieu étudiant. Et nous sommes toujours avec Sylvain de Zone Subversive pour parler cette fois-ci de la troisième partie de cette brochure qui s'appelle Créer enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière. Bon, cette situation n'a toujours pas été créée malheureusement.
Alors peut-être que ça viendra cette année ou l'année prochaine. Mais oui, alors sur cette partie de la brochure, moi je trouve assez intéressant parce que tout simplement, c'est rare qu'il y ait des réflexions théoriques qui cherchent à se donner des perspectives politiques. C'est-à-dire au-delà du constat qu'on peut faire d'une société d'exploitation, d'aliénation, etc. Il y a là la volonté de changer les choses et surtout de dresser des perspectives pour comment changer la société. Et donc les situationnistes vont faire une critique de l'héritage du mouvement ouvrier, hein, que ce soit évidemment la révolution russe, l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui est la bureaucratie qui va finalement exploiter le prolétariat comme avant la bourgeoisie pouvait exploiter le prolétariat. Et ils vont surtout s'inscrire dans un courant du mouvement ouvrier qui est très minoritaire à l'époque, qui est sans doute encore plus minoritaire aujourd'hui, qui est le communisme de conseil. Donc ils vont mentionner les conseils ouvriers comme la perspective à se donner. Et donc le communisme de conseil est particulièrement intéressant parce qu'il va s'inscrire dans une analyse de classe, dans une analyse de la société du point de vue des révoltes ouvrières, et en même temps valoriser l'auto-organisation plutôt que les partis et les syndicats. Ils estiment que les révoltes surgissent de manière spontanée et que l'enjeu, c'est de permettre l'organisation de cette spontanéité. Mais ce n'est pas l'organisation qui doit créer la révolte, mais au contraire, la révolte qui doit inventer une nouvelle forme d'organisation. Et il se trouve que dans l'histoire du mouvement ouvrier, ce qui a été créé, ce sont les soviets, notamment dans la Russie de 1905 puis de 1917 et ailleurs, à d'autres moments de l'histoire, qui ne vont pas être inventés par qui que ce soit, ni par un théoricien, ni par un parti. Ce sont les prolétaires qui vont s'organiser par eux-mêmes. Et donc les situationnistes vont valoriser ces conseils ouvriers, ces formes d'organisation. Donc des formes d'organisation mine de rien libertaires, puisqu'il y a une critique de toutes les formes d'avant-garde, c'est-à-dire d'un groupe d'individus, voire même d'une classe sociale, d'une bureaucratie, qui va dire aux gens, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut vous révolter, on vous donne les tracts, voilà ce que vous devez distribuer, voilà l'affiche avec la tête de Mélenchon que vous devez coller. Là, au contraire, c'est de dire, bon, ben, on prend les révoltes comme elles viennent, on est attentif, comme dans la partie précédente, aux différentes formes de révolte qui existent dans la société, et on va essayer de voir quelles sont les formes d'auto-organisation qui doivent surgir. Et puis ce qui est très intéressant dans le communisme de conseil, c'est que ce n'est pas une simple autogestion, de valoriser l'autogestion de l'existant, c'est que ces formes d'auto-organisation, finalement, ça doit remplacer la société capitaliste. C'est que le projet de société des situationnistes, c'est une société avec des conseils ouvriers, c'est-à-dire des groupes qui s'organisent dans des lieux de vie et de travail, qui s'auto-organisent et qui organisent une nouvelle société, pas hiérarchisée avec une direction qui donne des ordres au reste de la population, qui s'organise au contraire par la base, où ce sont les prolétaires eux-mêmes qui s'organisent et qui prennent les décisions collectivement de manière non hiérarchique, même anti-hiérarchique.
Oui, là-dessus, on peut d'ailleurs renvoyer à l'ouvrage de Charles Reeve, Le socialisme sauvage, paru aux éditions L'Échappée en 2017.
Et ce qui est intéressant dans cette brochure, dans la troisième partie, c'est que à la fois on peut y trouver, il y a tout le vocabulaire effectivement du communisme de conseil et ses limites. Je vais reprendre quelques idées un peu, qui me semblent être un peu des limites. Donc il y a l'affirmation du prolétariat avec un grand P. Il y a parfois dans le communisme de conseil pas ou peu de critiques du travail. Il y a une affirmation des conseils ouvriers, mais quand c'est pas explicité, ça peut être simplement on reprend l'existant, on sait pas trop ce qu'on fait des catégories marchandes, mais on élimine les patrons, ce qui peut être ce qui est un peu la version la moins révolutionnaire, disons, des conseils ouvriers. Et on reprend le concept de dictature du prolétariat et de dépérissement de l'État, concept de dépérissement de l'État qui historiquement s'est montré très glissant avec notamment l'expérience bolchévique. Et on retrouve quelques éléments de ces limites du marxisme révolutionnaire, du marxisme hétérodoxe, communisme de conseil, dans ces passages. Mais d'un autre côté, Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a aussi des pistes de dépassement de... C'est pour ça que les situationnistes sont un peu à cheval entre... Il reste malgré tout des héritiers de tous ces courants de pensée, du communisme de conseil, qui ont encore certaines limites, mais comme on va le voir dans les citations que je vais lire, il y a déjà un dépassement de ça, et on peut dire que au moins dans certaines intuitions fondamentales dans ce texte, qu'il y a l'idée d'un véritable dépassement révolutionnaire du capitalisme, entendu non seulement comme une société de classe, une société d'exploitation de classe, mais également comme une société du travail, au sens capitaliste, donc de vente, de location de son activité et de sa force de travail, de la marchandise, de la valeur, de l'argent et du capital. Alors, par exemple, là où ils vont plus loin que juste dire notre horizon, c'est les conseils ouvriers, c'est qu'ils disent « Il ne suffit pas d'être pour le pouvoir abstrait des conseils ouvriers, mais il faut en montrer la signification concrète, la suppression de la production marchande et donc du prolétariat. » Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est quand même une radicalité, surtout pour l'époque. Alors évidemment, tout le monde dit abolition de la société de classe, mais il y a peu de textes quand même qui disent, comme par exemple Marx le dit aussi en 1845, qu'il faut finalement l'abolition du capitalisme et de la société de classe, c'est aussi l'abolition du prolétariat. Là, c'est clair, c'est-à-dire finalement, avec un texte comme ça, on sait que l'autogestion, et finalement, est-ce que le terme doit être encore repris ? C'est un peu, eux, ils le reprennent, mais d'un autre côté, ils le dépassent. Donc aujourd'hui, on peut le dépasser complètement, à mon avis. Ils disent, pas de production marchande, pas de prolétariat. Donc à partir de là, on ne peut pas avoir une interprétation de l'autogestion qui va être typiquement celle des années, d'une grosse partie du mouvement des années 60-70, et qui va finir dans des choses hyper réformistes, comme à l'IP ou au PSU, où on a une interprétation de l'autogestion comme les ouvriers et les techniciens qui s'occupent sagement de leur usine, et qui est une interprétation qui n'est pas juste erronée et contre-révolutionnaire, mais qui en plus, lorsqu'elle a été pratiquée historiquement, au Portugal en 74-75, à l'IP en 73, et en Argentine en 2001, et là on renvoie à quand même une très bonne brochure que je pense que tu apprécies aussi, qui s'appelle « Contre le mythe autogestionnaire ». Voilà, là on voit bien que voilà, toutes les limites peut pouvoir cette perspective. Là, clairement, on voit avec une telle citation que dans De la misère en milieu étudiant, c'est pas cette perspective-là qui est donnée. Et une autre citation le montre très clairement. L'autogestion de l'aliénation marchande ne ferait de tous les hommes que les programmateurs de leur propre survie. C'est la quadrature du cercle. La tâche des conseils ouvriers ne sera pas donc l'autogestion du monde existant, mais sa transformation qualitative ininterrompue. C'est que finalement, ils gardent le concept de conseils ouvriers, peut-être pour garder un lien justement avec l'autonomie ouvrière, le prolétariat, c'est-à-dire l'idée que c'est pas les étudiants qui vont faire la révolution, en tout cas pas que eux. Mais d'un autre côté, ils commencent déjà à dépasser finalement l'idée un peu restreinte des conseils ouvriers pour en faire quelque chose de beaucoup plus vaste, parce que finalement, dans leur appel à une transformation de la vie quotidienne, c'est pas seulement l'usine qu'on transforme, mais c'est également la vie complète, quoi.
Oui, moi je partage pas mal leur position sur les conseils ouvriers, c'est-à-dire que... Alors il y a une phrase qui n'est pas dans la brochure, mais qui est dans l'international situationniste, peut-être dans la société du spectacle, qui dit ce ne sont pas les situationnistes qui sont conseillistes, ce sont les conseils ouvriers qui doivent devenir situationnistes. C'est-à-dire que les conseils ouvriers sont considérés comme une simple forme d'auto-organisation, sans forcément lui donner un contenu. C'est la critique notamment que fait l'ultra-gauche stalinolâtre, comme les bordiguistes, qui vont critiquer les conseils ouvriers en disant finalement tout ça n'est que l'autogestion du capital. C'est une critique assez pertinente, à condition de dire que les conseils ouvriers sont insuffisants pour dépasser le capital, mais ils sont indispensables. Parce qu'il faut insister avant tout sur l'auto-organisation. C'est la base de tout. S'il y a des petits chefs, s'il y a des bureaucraties, s'il y a des partis, s'il y a des hiérarchies, tout simplement, des séparations entre gouvernants et gouvernés, ce n'est pas possible. Donc ça doit être l'auto-organisation. Ensuite, cette auto-organisation, il faut lui donner un contenu politique. Et ça, comme tu l'as bien dit, il donne un contenu assez clair au Conseil ouvrier, qui est l'abolition de la marchandise, et même, selon leurs termes, la critique unitaire, c'est-à-dire finalement la critique de tous les aspects d'exploitation et d'aliénation qui existent dans la société marchande, toutes les formes d'oppression, quelles qu'elles soient, qui ne doivent pas être tolérées, même quand il s'agit de sociétés prétendument communistes, et une critique globale de la société, critique de la société dans son ensemble, toutes les formes d'oppression, toutes les formes d'aliénation qui traversent la société et les relations humaines, doivent être abolies, dépassées, détruites, tout simplement. Et donc, je pense que c'est cette relation-là sur laquelle il faut insister, c'est les conseils, alors je ne sais pas si on doit appeler conseil ouvrier ou si les formes d'auto-organisation peuvent prendre d'autres termes au XXIe siècle. Le XXe siècle, c'est vrai que c'était les conseils ouvriers. Et effectivement, il faut leur donner un contenu politique. On ne peut pas se contenter, ça a été des grandes dérives des Nuits Debout, hein, de dire on est auto-organisé, on est en dehors des partis, on n'a pas de chef, et puis ça suffit. Non, oui. Effectivement, il faut aller plus loin. Déjà dire que l'ensemble de la société doit être auto-organisée, et encore mieux de dire qu'il faut dépasser le travail, la marchandise, l'État, et toutes les formes d'exploitation et d'aliénation.
Oui, ça c'est effectivement important, c'est les conseils ouvriers sont... Enfin, disons, si on garde le concept, on pourrait changer de concept aujourd'hui, parler d'autonomie, ou peu importe le terme qu'on choisit, mais en tout cas, c'est effectivement, on peut insister sur le fait que l'auto-organisation, si on peut appeler ça comme ça, de manière un peu générale, l'auto-organisation est une condition nécessaire, mais non suffisante, d'un dépassement révolutionnaire du capitalisme. Et c'est ça, c'est une partie du texte qu'on vous invite à lire. On ne peut pas faire l'économie d'une critique des syndicats, des partis, des trotskistes, des avant-gardes révolutionnaires, du gauchisme et tout ça. Là, on voit vraiment au texte là-dessus, et puis bon, aussi parce qu'on a consacré un certain nombre d'émissions à la critique notamment du marxisme-léninisme. Mais en tout cas, voilà. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les situationnistes essayent de donner un contenu radical, révolutionnaire à cette auto-organisation. Et je vais poursuivre justement par une autre citation leur critique de la société capitaliste, donc qui est aussi une critique du prolétariat, donc c'est-à-dire une critique de la société de classe, une critique du travail marchandise et une critique de la marchandise. Ce dépassement implique naturellement la suppression du travail et son remplacement par un nouveau type d'activité libre, donc l'abolition d'une des scissions fondamentales de la société moderne entre un travail de plus en plus réifié et des loisirs consommés passivement. Des groupuscules aujourd'hui en liquéfaction comme socialisme ou barbarie, pourtant ralliés sur le mot d'ordre moderne du pouvoir ouvrier, continuent à suivre, sur ce point central, le vieux mouvement ouvrier sur la voie du réformisme du travail et de son humanisation. C'est au travail lui-même qu'il faut s'en prendre. Loin d'être une utopie, sa suppression est la condition première du dépassement effectif de la société marchande, de l'abolition dans la vie quotidienne de chacun, de la séparation entre le temps libre et le temps de travail, secteur complémentaire d'une vie aliénée, où se projette indéfiniment la contradiction interne de la marchandise entre valeur d'usage et valeur d'échange. Donc là, juste sur l'idée de contradiction interne de la marchandise, c'est, chez les situationnistes, c'est l'idée... Alors c'est vrai que c'est un peu ambigu, mais j'ai l'impression que cette phrase, c'est de dire qu'on doit rejeter la marchandise et, dans sa dimension de valeur d'usage et dans sa dimension de valeur d'échange, et pas simplement jouer l'un contre l'autre, comme c'est trop souvent fait... dans certaines critiques tronquées du capitalisme. Et je poursuis la phrase. « Et c'est seulement au-delà de cette opposition que les hommes pourront faire de leur activité vitale un objet de leur volonté et de leur conscience et se contempler eux-mêmes dans un monde qu'ils ont eux-mêmes créé. » Donc là, on voit bien qu'il y a une critique radicale du travail et une critique radicale du travail comme aliénation. Alors, je l'ai déjà précisé dans d'autres émissions, mais je pense que c'est toujours bien, surtout qu'on a beaucoup parlé d'aliénation, d'aliéné, de revenir un peu à une définition précise de ce concept, parce que autant exploitation et domination, c'est un peu plus immédiatement intelligible, autant le concept d'aliénation l'est moins. Donc c'est trois concepts de l'allemand qui viennent de l'allemand, qu'on retrouve chez Marx et qu'on a traduit en français par un seul concept qui est aliénation. Et ces trois concepts en allemand veulent dire se déposséder, ou dépossession, devenir étranger et vendre, se vendre. Donc dans la critique situationniste de l'aliénation, il y a, ou du moins aujourd'hui on peut voir, on peut pousser cette critique de l'aliénation chez les situationnistes jusque-là, une critique du fait que non seulement au travail on est exploité, on est dominé par un patron, des contremaîtres, etc., mais en plus on se dépossède de ses désirs, de sa volonté propre, pour devenir une fonction, une machine, une chose, et là ça renvoie au concept de réification, monde réifié, de dire qu'on devient soi-même une chose, voilà, on devient une fonction d'encaissage quand on est caissière. Et du coup, c'est dans cette critique de l'aliénation, situationniste critique quelque chose qui est vraiment central dans la société capitaliste, qui est le fait qu'on se dépossède de soi pour correspondre à des rôles de production. Rôle de cadre, rôle d'employé, rôle d'ouvrier spécialisé et tout ça. Et c'est une critique vraiment très importante à faire. Et cette critique de l'aliénation, elle implique une critique du travail. Alors bien sûr, on peut juger que cette critique du travail des situationnistes, elle est encore un peu légère. Mais malgré tout, au moins dans ce texte-là, il y a vraiment des bases d'une critique radicale du travail. Puisque en parallèle, il parle aussi du travail marchandise. Donc c'est qui chez les situationnistes, il y a une compréhension de la spécificité du travail dans le capitalisme. Et en même temps, ils vont pas chercher à invoquer un autre travail fantasmatique, ce serait le bon travail, mais ils font voilà une critique du travail comme activité contrainte au sein du capitalisme.
Alors sur l'aliénation, il y a une définition dans cette brochure du prolétaire, qui est donc le sujet révolutionnaire selon les situationnistes, c'est-à-dire ce sont les prolétaires eux-mêmes qui doivent faire la révolution. Et donc les prolétaires, pour eux, c'est celui ou celle qui n'a aucun pouvoir sur l'emploi de sa vie et qui le sait. Donc ça rejoint un peu la définition de l'aliénation, du fait que finalement on veut reprendre le contrôle de nos existences. Et que c'est dans cette perspective-là que doit se faire la révolution. Et oui, sur la critique du travail, là, ça rejoint un peu l'inspiration artistique des situationnistes, d'où leur différenciation, par exemple, avec des groupes communistes de conseil comme Socialisme ou Barbarie. C'est-à-dire que dans l'affiliation un peu des dadaïstes, ils vont valoriser la créativité, le jeu, le ludique, contre mention, la contrainte, la discipline du travail. Et ça, c'est vrai que ça leur donne une spécificité par rapport aux autres courants du mouvement ouvrier, d'insister aussi sur le plaisir plutôt que sur la soumission aux règles. Et ça rejoint effectivement le projet des avant-gardes artistiques qui était de transformer le monde pour changer la vie. Effectivement, la critique du travail se fait, c'est une critique juste... Enfin, qui n'est pas pour une autogestion du travail ou pour une activité travail qui soit sous forme différente, etc. C'est vraiment pour une activité libre, pour une activité réellement épanouissante. On ne va pas organiser les gens pour produire des choses ou des marchandises. On va faire en sorte que le jeu, la créativité, le plaisir permettent de créer ce qui est nécessaire pour vivre. Ce qui est une manière de repenser la société totalement différente.
Oui, et c'est pour ça que dans cette perspective et dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ce texte est malgré tout très inspirant. Je m'attendais en le relisant à quelque chose de plus daté, et en réalité, à part sur les aspects où ils décrivent les mouvements de leur époque, et même si aujourd'hui, effectivement, il y a des théories critiques qui peuvent aller plus loin sur tel ou tel sujet... la communisation, la critique de la valeur ou d'autres courants, malgré tout, enfin, clairement, ça reste inspirant pour aujourd'hui, et c'est clairement la critique radicale du capitalisme la plus avancée de leur époque, bien au-delà de tout ce qui se faisait à part ça, même si, évidemment, il y avait des choses, des choses dans le situationnisme qui étaient plus ou moins radicales en fonction des époques et tout ça. Je pense qu'on l'abordera quand on fera des émissions sur Debord ou Van Hegem. Il y a des aspects moins radicaux que ça dans certains passages de l'œuvre de Van Hegem ou de Debord. Après, très rapidement, puisqu'on ne peut pas uniquement jeter des fleurs aux situationnistes, on peut voir quelques limites au situationnisme, mais qui, à notre avis... peuvent être dépassés tout en gardant un peu cet esprit situationniste. Donc faire une espèce de... Je sais que ça a été proclamé mille fois, on me l'a dit récemment, le proclamer le dépassement du situationnisme, d'aller au-delà du situationnisme. Mais en tout cas, sur un certain nombre de points, on peut aller plus loin qu'eux, notamment sur la critique du patriarcat, qui n'était pas très claire chez eux. Même si, évidemment, pour ce qui est de cette brochure, le féminisme n'était pas très développé à cette époque, et était beaucoup incarné dans la figure de Simone de Beauvoir, qui, d'un point de vue situationniste, évidemment, était très problématique, puisque Simone de Beauvoir, même si ça a été une pionnière du féminisme et qu'on y a consacré une note de lecture, sa grande limite, c'est d'avoir soutenu la révolution culturelle en Chine, d'avoir écrit un bouquin sur la Longue Marche, et d'être restée globalement très intégrée à une gauche intellectuelle, la gauche intellectuelle, gauche étatiste, quoi. Ensuite, une deuxième chose qu'on pourrait peut-être leur reprocher, c'est de pas avoir pensé de critique des forces productives. Pas suffisamment, même si c'est vrai que au fur et à mesure du temps, de l'euphorie pour les forces productives au début des années 60 à aux années 70, notamment chez Debord, il y a une critique des technologies qui se développent, il y a des choses qui sont intéressantes. Après, d'un autre côté, je pense que ce qu'on pourrait garder des situationnistes, c'était l'idée que des nouvelles formes de vie vont créer, en fait, elles créeront des nouvelles formes de techniques. Et que plutôt que de se positionner comme le marxisme ou les anti-industriels, soit pour le mouvement des forces productives capitalistes, soit contre le mouvement des forces productives capitalistes, il faudrait plutôt partir de l'idée que peu importe le mouvement des forces productives capitalistes, même si évidemment on peut s'opposer à certaines, mais que la grande question c'est quelle forme de vie on souhaite, et à partir de ces formes de vie, lorsqu'elles existeront réellement, d'autres formes de techniques existeront, et il est évident que dans une société post-capitaliste, personne n'aura l'idée d'autogérer des usines automatisées, des bombes nucléaires, des centrales à charbon ou d'autres choses de ce genre. Et c'est pour ça que, finalement, dans ce texte, on parle pas de la critique de la technique, mais il n'y a pas non plus d'apologie des forces productives. Et ça me paraît être une position qui est... alors évidemment, aujourd'hui, il faut critiquer aussi les techniques capitalistes et le mouvement de l'histoire. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans le situationnisme, c'est d'être focalisé non pas sur des objets qu'il faudrait transformer ou des objets dont il faudrait se débarrasser, mais sur une transformation en profondeur de tous les rapports sociaux. Et c'est ce qui semble en tout cas être prioritaire et le plus important, avant même de combattre telle ou telle technologie.
Oui, moi je réponds sur cette volonté de dépassement. Déjà en répondant que souvent ceux qui veulent dépasser la théorie situationniste, c'est la théorie situationniste qui les dépasse.
Pas mal.
Et plus sérieusement, sur la critique du patriarcat, dans ce texte, il y a par exemple la mention de Reich, et alors j'ai plus la citation sous les yeux, mais les rapports érotico-amoureux conformistes. Ce qui est assez bref, mais qui peut critiquer la domination de l'homme sur la femme, par exemple, dans le cadre du couple, ou même l'existence du couple avec l'homme qui possède la femme. On peut y voir ce genre de choses, même si ce n'est pas explicite.
Et puis Reich est limité quand même là-dessus. Hein.
Alors, Reich c'est limité, mais c'est...
C'est très hétéronormatif et tout ça, quoi.
Ensuite, on peut critiquer Reich, mais sur la critique de l'institution de la famille, des institutions patriarcales, je pense que ça va quand même assez loin. Ensuite, que Reich soit homophobe, en tout cas ait une conception de la sexualité uniquement génitale, ça c'est vrai. Sur le féminisme des situationnistes, c'est vrai que les situationnistes, par contre, pas dans ce texte, mais dans des détournements de femmes dénudées qui disent, j'ai plus la citation en tête, mais c'est vrai qu'il y a certains discours situationnistes qui vont dans le sens du patriarcat, qu'une femme a besoin d'un homme pour jouir, ce genre de discours, effectivement, où les situationnistes n'ont pas forcément une réflexion sur le patriarcat très aboutie, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ensuite, sur les autres aspects, je pense que les situationnistes peuvent permettre, en revanche, en alimenter des mouvements comme le FAR, par exemple, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, dans le sens où leur critique du capitalisme, c'est pas juste une critique d'un système économique, c'est une critique d'une logique marchande qui s'étend à tous les aspects de la vie, et notamment une critique des contraintes sociales, des normes sociales, des conformismes qui peuvent exister, et une critique de la société bourgeoise, comme Reich d'ailleurs, une critique de la morale bourgeoise, qui a beaucoup alimenté les mouvements féministes et homosexuels qui ont suivi les situationnistes. Et donc, c'est, voilà, y a cette dimension-là qui n'existe pas vraiment, mais dont on peut puiser dans la critique de la vie quotidienne pour ces mouvements-là. Ensuite, il y a un autre aspect qui me semble important, c'est que justement, dans cette brochure et dans la plupart de leurs textes, les situationnistes sont dans une critique, ce qu'ils appellent une critique unitaire, c'est-à-dire une critique globale de la société. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas énumérer, alors, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a les OGM, on fait toute une liste des nuisances, hein, comme l'encyclopédie des nuisances, avec les machins, les problèmes de la société, qu'on énumère un par un et qu'on critique un par un. Eux, ce qu'ils recherchent à faire, c'est une critique globale de la société, et de critiquer toutes les formes d'oppression, toutes les productions du capitalisme, quelle qu'elle soit, sans forcément faire un catalogue, mais dire, voilà, il faut abolir la société marchande dans son ensemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi à réactualiser. Actuellement, dans ce qu'on appelle la théorie critique, il y a beaucoup de critiques spécialisées de tel ou tel aspect, avec des revues voilà, spécialisées sur l'antispécisme, sur je ne sais pas trop quoi, sur l'agisme, sur telle ou telle domination particulière. Ça peut être plus ou moins intéressant, hein, il peut y avoir des critiques intéressantes là-dedans, mais ce qui manque, c'est une critique de globale. Et que ces critiques particulières, malheureusement, ont du mal à se raccrocher à une critique globale. Parler du phare du Front d'Action, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, rattacher la critique de ce qu'ils appelaient l'hétéronormalité à la critique globale du capitalisme. Et aujourd'hui, malheureusement, ces luttes spécialisées, alors anti-nucléaire, anti-je sais pas trop quoi, anti-fasciste, anti-machin, ont du mal à se raccrocher à une critique globale de la société marchande. Et je pense que c'est ça, sans doute, la force des situationnistes, c'est de porter un discours d'ensemble sur la société capitaliste, où on peut y voir, je suis d'accord, quelques limites sur tel ou tel point. En revanche, sur la critique de la globalité du monde marchand, c'est quand même quelque chose qui me semble intéressant de renouveler.
Oui, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus, sur le fait que même si il y a énormément de choses à revoir effectivement, dans le situationnisme, c'est important de le relire même 50 ans après, parce que malgré tout, si on prend les références théoriques, critiques, moyennes, aujourd'hui même dans la gauche, et peut-être même dans l'extrême gauche, on n'est pas encore au niveau du situationnisme.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.